Bienvenue dans Infirmière de novice à experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel.
Nous sommes Sylvie
et Karine,
deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain.
Dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et la réalité de la profession infirmière.
Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique.
Alors, mettez vos écouteurs,
prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à experte.
Bonne écoute!
Salut Karine!
Salut Sylvie!
Hey, je suis contente, on se voit en vrai aujourd'hui pour notre podcast.
Oui, c'est vraiment excitant de te voir aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment tu vas?
Ça va super bien. Donc, puis on va travailler un sujet aujourd'hui. Je pense qu'il est encore plus important de se voir en vrai parce qu'on va travailler, on va parler des émotions. Des émotions qu'on a en stage.
Oui. Je trouve ça important qu'on soit ensemble parce que c'est un sujet quand même qui est sensible, qui pourrait être émotionnel. Fait que je trouve ça le fun qu'on se voit en vrai pour parler de ça, définitivement. Ce qui m'a amené moi, à vouloir parler de l'émotivité chez les soignants, c'est mes étudiants qui me disent « Là, il faut que je me fasse une carapace, Karine. Là, il ne faut pas que je me fasse toucher par ces patients-là, là, parce que je suis trop sensible. » Ça m'ébranle vraiment beaucoup quand ils me disent ça. T'as-tu déjà entendu ça?
Oui, j'ai entendu ça souvent. Et souvent en début de pratique. Ou quand c'est des moments avec des patients où c'est plus un peu plus touché, où on ne sait pas trop, on doit-tu intervenir, on doit-tu assister avec les patients, avec la famille, on doit-tu s'éloigner. Donc, on dirait qu'à un moment donné, on ne sait plus où on va se mettre. Là. Donc, oui, effectivement, il faut parler de ça parce que les émotions font partie de la vie. Mmh. On a des situations, des fois, qui sont impromptues dans nos stages ou lorsqu'on travaille, puis qu'on soit une jeune infirmière, qu'on soit une plus vieille, il y a des choses qui viennent nous toucher plus que d'habitude, ou peut-être des choses que moi, ils vont me toucher, puis que toi, ils ne toucheront pas.
Ah, souvent, c'est ça. On ne sait pas pourquoi ça nous touche. Ou, des fois, on sort d'une chambre, on ne sait même pas pourquoi on était branlé, mais il y a quelque chose qui a résonné, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, mais définitivement, ça m'apporte plein d'émotions. Puis ça peut être très difficile à gérer en début de pratique ou comme experte, là, je pense.
Mmh. As-tu des trucs que tu donnes à tes étudiants par rapport à ça, justement, quand ils ressortent d'une chambre, puis des fois, ils sont comme tout déconstruits, puis ils ont de la misère à parler, ils ont les larmes aux yeux?
Bien, en premier, ce que je pense qu'il faut qu'on mette en relief aujourd'hui, c'est que c'est super normal de sentir ces émotions-là. Fait que de normaliser que même si on est des soignants, même si on est dans des situations difficiles et tout ça, pour moi, c'est pas vrai qu'il faut se mettre une carapace. Fait que souvent, c'est ça que je leur dis, parce que quand ils sortent de la chambre émotionnés, on va dire ça comme ça, soit très fâchés, soit très tristes de questions devant eux, avec leur patient ou peu importe, et ils se sentent coupables, puis là, ils se disent « mais je devrais pas me sentir comme ça ». Puis ça, je pense que la première chose que je veux qu'on mette de l'avant, c'est que tu as le droit à peu importe quelle émotion que tu vis à ce moment-là auprès du patient. Pour moi, ça, c'est vraiment important.
Mais des fois, quand on parle de carapace, ça peut aussi juste être « mais je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire un soin, je suis en train d'installer un médicament, un soluté. » Il faut aussi que tu restes concentré sur la tâche. Mmh. Donc, oui, les émotions vont venir, mais je pense que le fait aussi de dire on se met une carapace, c'est dans l'action, parce que le patient a besoin. Donc, je suis en train d'intervenir auprès du patient, tout ça. J'essaie de le faire de façon professionnelle, sans nécessairement toujours démontrer nos émotions, mais c'est après qu'il faut dire « Oh, qu'est-ce qui est venu me toucher? Qu'est-ce qui s'est passé? » Parce que tout dépendant de la situation, il y a des fois où tu n'as pas le choix de, comme on dit des fois, de se mettre une carapace parce qu'on est en relation d'aide, on aide quelqu'un qui est vulnérable, qui a besoin. Donc, je dois l'écouter, je dois, oui, voir que ça me touche, que ça vient chercher quelque chose, mais je suis encore une professionnelle qui a besoin d'aider quelqu'un.
Oui, dans le fond, il faut que les besoins du patient soient ma priorité et non pas l'émotion que je vis présentement. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut tracer une ligne, mm-hmm. peut-être plutôt qu'une carapace. Parce que la carapace, j'aime pas l'image de la tortue qui se... Tu sais, ça reste tout en dedans, finalement, les émotions quand on se fait une carapace, puis après ça, ça éclate.
Oui.
Moi, c'est de même que je vois ça. Fait que c'est peut-être l'image de la carapace, mais c'est important d'être fonctionnel dans la chambre et de gérer ses émotions. En fond, l'émotion est valable, mais il faut que tu apprennes à bien la moduler à certains moments durant tes soins. Puis peut-être à quand tu sors de la chambre, là, que tu puisses t'exprimer auprès de tes collègues ou des choses comme ça.
Puis tout dépendant aussi du type d'émotion ou tout dépendant du contexte de soins. Tu travailles avec le patient, il va recevoir une mauvaise nouvelle, tu vas le faire verbaliser, il pleure, il est choqué. Oui, ça vient te chercher, mais tu as le droit aussi d'avoir un peu de peine en même temps que lui, et puis en continuant à le faire verbaliser. Tu travailles en soins palliatifs, bien, ça se peut que que tu pleures avec le patient parce que tu n'es pas nécessairement en train de faire un soin, tu es plus en accompagnement. Donc, c'est ton côté vulnérable de montrer que oui, tu n'es pas juste une infirmière qui donne des médicaments puis qui soulage le patient, mais de voir aussi que ça touche ce qui se passe avec la famille, surtout si tu les as accompagnés depuis longtemps.
Mais quand on accompagne des patients, peu importe le contexte, que ce soit en soins aigus ou en soins palliatifs, peu importe, on construit une relation avec eux. On peut s'attacher à certains patients. C'est quoi ta perception là, de ça quand que on dit ah, faut pas que je m'attache à mes patients, faut que je mette cette limite-là?
Ben, moi, je suis pas d'accord à ne pas s'attacher parce que ça fait des soins plus humains. Plus on va avoir une relation à long terme avec nos patients, c'est normal qu'on s'attache. On va avoir plus d'affinité avec certains. Il y a un patient qui va ressembler à notre mère, à notre grand-mère, à notre grand-père, à une personne qu'on a aimée aussi. Donc,
Oui.
puis d'autres patients qu'on va peut-être avoir moins d'affinité aussi, fait qu'on va peut-être moins s'attacher. Ça ne dit pas qu'on ne donnera pas les meilleurs soins, mais on n'aura pas la même affinité. Mais oui, ça va nous toucher parce que des fois, on a des patients en résidence, en CHSLD, qui vont être là 6, 7, 8 ans. Ben, si tu restes 6, 7, 8 ans à côtoyer toujours les mêmes personnes, veux, veux pas, tu vas t'attacher.
C'est
Hein?
sûr.
Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, il va falloir se détacher parce que la vie va se terminer. Donc, l'épisode de soins va se terminer, mais oui, ça va nous faire de quoi. Puis c'est vrai qu'il y en a qui viennent nous chercher davantage, même après toutes les années qu'on a. Je suis sûre que toi aussi, tu as des patients qui t'ont touché davantage, que tu te rappelles encore.
Ah, c'est sûr. Moi, en plus, en début de pratique, là, je vois encore leur visage à certains patients. Il y a des patients qui marquent notre parcours. Les premières fois qu'on a, par exemple, un code bleu, donc un patient qui doit être réanimé. Pour moi, c'était une situation vraiment nouvelle, là. On n'avait pas un endroit où je ne travaillais pas dans un milieu où est-ce qu'on faisait beaucoup de codes. Puis quand le patient, t'sais, souffrait avant, avait un certain statut clinique finalement qui nécessitait peut-être pas de réanimation, mais que ça n'avait pas été discuté avec la famille. Donc, on avait fait des soins de réanimation chez ce patient-là, alors que, dans le fond, ça n'avait juste pas été discuté. Donc, une situation très grise, on va dire ça comme ça. Je me rappelle d'être sortie de là très, très ébranlée, puis de me rappeler de ce patient-là qui souffrait déjà beaucoup, qu'on avait essayé de réanimer avec une. Ça m'a habité là, vraiment beaucoup. Puis, quand tu restes pris avec ça, puis l'enjeu, c'est que moi, je ne trouvais pas ça normal. De vivre ces émotions-là. Mes collègues, tu sais, ça n'avait pas été discuté beaucoup. On était toutes parties faire le reste de notre tournée, tout comme si rien s'était passé, finalement, alors qu'on vient tous de vivre quelque chose de difficile. Ou peut-être que c'était juste difficile pour moi, ça se peut aussi. Mais c'est important de le mentionner et d'avoir le soutien de notre équipe. J'étais rentrée chez nous, j'étais pleine d'émotions encore, alors que chez nous, peut-être qu'il n'y a pas les bonnes personnes pour m'épauler là-dedans non plus parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai vécu. À l'hôpital, je trouve que c'est important que nos CPI et nos infirmières, ils comprennent que c'est correct de verbaliser cette émotion-là que tu as vécue avec ta collègue ou avec quelqu'un dans le milieu de soins. Parce que c'est là que tu vas avoir ton soutien. On a tous vécu la même chose. C'est important de verbaliser. Puis que quand quelqu'un pleure au poste, que ça ne soit pas vu comme négatif, qu'elle n'est pas assez forte, oh, elle n'est pas dans le bon milieu, elle est trop fragile. Ces discours-là, c'est pas la bonne place parce qu'on est humain, comme tu dis.
Exact. Puis de ressentir des émotions, puis d'être plus à fleur de peau parce qu'on a aussi tout un bagage personnel. Donc, des fois, une situation qui va te sembler bien anodine, tu vas dire, ben voyons donc, pourquoi tu t'emportes comme ça pour une situation? Mais ça peut-être, c'est en train de lui faire vivre des choses qu'elle vit à la maison. aussi, ou que des gens proches d'elle sont en train de vivre, et ça vient nous chercher encore plus. Puis les émotions, bon, ça se contrôle à un certain niveau, mais quand ça arrive, ça ne demande pas à arriver. C'est là, puis ça arrive. Après ça, il faut être capable d'aller chercher le pourquoi. Et puis peut-être de travailler dessus, mais c'est normal. Puis c'est normal quand tu as un premier décès, d'avoir de la peine, puis, ou des fois de pas être en accord avec la décision, soit de, tu sais, on parle d'aide médicale à mourir, de ce temps-ci. Il y en a beaucoup de patients qui décident de l'heure de leur mort. Puis il y a des étudiants qui me disent, ouais, mais c'est pas correct, c'est la vie, puis il faut continuer. Et ils sont tristes de ça, puis ils ont de la difficulté à faire leur rôle d'infirmière, d'accompagnement, parce que ça devient chercher dans leur valeur. Donc, c'est là où il faut travailler sur nous, puis de dire, ouais, essayer de rationaliser, je pense, la situation. Donc, oui, mon émotion, mais aussi de se mettre dans la place de l'autre. C'est ça, être empathique, hein? De se mettre à la place de l'autre, puis dire, pour son bien, c'est sa décision, c'est elle qui veut ça. Donc, oui, ça me rend triste, mais il faut que ça me rende heureuse pour elle. Donc, c'est des façons aussi d'essayer de voir des fois des choix déchirants qui vont arriver, qui viennent nous prendre au dépourvu, puis qu'on ne sait pas trop comment agir avec ça.
Et des fois, on est vraiment pris au dépourvu. Donc, des fois, c'est même pas une situation aiguë où est-ce qu'on rentre dans la chambre et justement le patient est en train de se faire réanimer ou est en train de mourir. Là, des fois, c'est plus léger que ça, on s'entend. Là, ça peut être que tu rentres dans la chambre, qu'un patient qui a subi un AVC, puis tu le regardes, puis tu sais pas pourquoi sa situation touche la dynamique familiale. Peut-être qu'il ressemble, tu disais tantôt, à ton père, ça, mais mon Dieu, ça pourrait arriver à quelqu'un dans ma famille ou quelque chose comme ça. Puis des fois, c'est pas tangible. Mais puis là, on va être à fleur de peau toute la journée, mais on ne saura pas pourquoi. Je pense que de la réflexion après ça est vraiment importante. Fait que quand on finit notre part de travail, d'avoir un petit rituel, de voir comment notre journée a été, de se demander si justement il y a des choses qui sont venues nous chercher. Il y en a qui vont faire du journal aussi, là.
Du journaling, oui.
Exactement, je ne voulais pas le dire en anglais pour pas avoir mon petit accent.
Ah,
Mais oui, du journaling. Non, non, mais ça peut être vraiment le fun de juste écrire ce que tu as pensé. Puis après ça, c'est de l'introspection, c'est du cheminement. Que ça soit quelque chose qui t'a ébranlé ou juste pour après toutes tes heures de travail. Juste de débriefer un peu finalement avec toi-même plutôt que de ramener ça à la maison. Je pense que l'enjeu, il est vraiment là quand on est très émotif. Il ne faut pas que ça devienne un lourd sac à dos à traîner avec nous. Fait qu'il faut se trouver une petite routine.
exact. Puis c'est dans les deux sens, c'est nos émotions avec nos patients, mais nos émotions qu'on amène de la maison. Tu sais, des fois, on a des situations qui sont difficiles. On est en processus de séparation, on a quelqu'un dans notre famille qui est malade, que ça va pas bien. On vient de recevoir un diagnostic qui vient nous scier les deux jambes. Il faut continuer à les travailler. Puis c'est pas à nos patients non plus à gérer nos émotions. Donc, ça aussi, il y a ce côté-là émotif lorsqu'on arrive sur notre corps de travail, d'être capable de, pas de faire une coupure complète, mais de dire, OK, ça, oui, ça, c'est mes problèmes, ça m'appartient à moi. Les patients n'ont pas besoin de connaître ma vie non plus, mais ils n'ont pas besoin que je sois de mauvaise humeur parce que je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Moi, je dis tout le temps, prends ton petit baluchon, mets toutes tes choses dedans quand tu rentres travailler. Puis je dis là, pour le prochain 8 heures, je suis là pour mes patients. Mes émotions, ce que j'ai de difficile à vivre dans ma vie, bien, je les mets dans le petit baluchon, je les mets sur le bord de la porte. Et là, je vais aller travailler. Donc, je vais essayer de volontairement de ne pas y penser. Parce que de toute façon, je suis en train de travailler, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer la situation, je suis au travail. Donc, de dire, OK, mes émotions à moi, je les mets de côté, puis je me concentre sur mes patients. Donc, là, ça va être vraiment de structurer ta journée pour ne pas avoir à penser à ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va t'attendre quand tu vas retourner chez vous. Donc, ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Fait que quand tu as fini ton travail, ben là, tu vas reprendre ton petit baluchon, tu vas reprendre tes émotions, puis tu vas continuer.
Ah, j'ai beaucoup d'admiration, Sylvie, si tu es capable de faire ça. Moi, on dirait que le baluchon, je le traîne tout le temps un petit peu. Mais sachant ça de moi, tu sais, que j'ai de la misère à faire cette coupure-là, je pense juste de reconnaître que je suis fragile aujourd'hui. d'en faire part à mes collègues, par exemple, de dire là, aujourd'hui, je me sens plus borderline, tu sais, si je te fais signe, peut-être que j'aurai besoin de toi. Donc, des fois, juste, c'est de reconnaître qu'on est plus fragile, puis après ça, ben, durant notre journée, justement, les choses vont se mettre en place, puis on va se rendre compte qu'on est capable d'avancer malgré ce petit baluchon-là qu'on traîne, là, parce que des fois, c'est pas facile de laisser ça au pied de la porte, là, mais on veut mettre de l'avant notre patient, on veut être sécuritaire. Fait que je pense qu'il faut reconnaître notre petite fragilité
Oui.
à ce moment-là, bien se connaître finalement au travers
C'est
de nos
important.
soins.
Puis ton petit baluchon, ben, c'est aussi lorsque tu es avec des patients. Tu sais, avec des patients où justement, tu as un patient qui t'a touché, il peut avoir une situation qui a dégradé aussi, puis que ça n'a pas bien été, il t'a dit que tu n'étais pas bonne, que tu n'étais pas une bonne infirmière. Là, tu retournes avec ça, ce bagage-là. Et en sachant, et les patients peuvent aussi nous démolir. Des fois, c'est volontaire, d'autres fois, c'est pas volontaire non plus. C'est une patiente qui souffre de démence puis qui vient dire que t'es pas belle, que t'es pas fine, que tu sers à rien puis que tu ne veux pas te voir. Ça vient te toucher. Mais il faut le relativiser pour dire, ben, c'est sa maladie, c'est pas moi. Ce n'est pas moi comme personne. C'est ce que je représente comme infirmière. Tu sais, je suis une infirmière, donc c'est la représentation de l'infirmière à qui elle vient de donner ces éléments-là, et non pas moi comme personne. Donc, pas moi comme Sylvie, mais moi comme infirmière qui donne des soins. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup à diminuer l'impact que ça peut avoir, parce que on parle de choses qui sont tristes, mais il y a des fois, il y a des choses qui sont choquantes. Hein? Donc, de l'amener puis de dire, on ne faut pas le prendre personnel. Hein? On doit se faire respecter aussi de la même façon. Fait que tous ces éléments-là, quand j'ai fini mon quart de travail, je devrais aussi prendre le temps, comme tu disais, là, de faire du ménage un peu là-dessus, mais de remettre ça dans le petit baluchon, puis de le laisser à la même place, puis prendre les notes. Fait que ce qui s'est passé au travail, on le laisse là. Okay? Parce que notre famille, quand on arrive chez nous, on n'a pas non plus à payer pour la mauvaise humeur ou la mauvaise journée que j'ai eue parce que j'ai géré plein d'émotions négatives puis que ça n'a vraiment pas bien été, que ce soit avec mes patients, que ce soit avec mes collègues, il s'est passé quelque chose, ça n'a pas bien été. Ben, il faut que j'apprenne aussi à me distancer de ça.
Profiter de la maison comme un lieu de recul plutôt que de ramener ça. Tu sais, on dit de ne pas ramener le travail à la maison. Je ne suis pas sûre que, tu sais, encore une fois, que c'est possible de laisser un baluchon complètement, mais de ne pas le laisser teinter dans notre dynamique familiale. Donc, de se permettre d'avoir ce recul-là avec notre conjoint, notre famille, peu importe où si on est seul, même notre animal de compagnie, que quand je suis là-bas, c'est mon. Quand je suis chez nous, c'est mon air, là, c'est à moi, c'est ma zone de paix où est-ce que je peux me poser, puis prendre ce recul-là que j'ai besoin avec le travail. Parce qu'on fait quelque chose de vraiment pas difficile, de vraiment pas facile, pas difficile. C'est pas ça que je
Bon,
voulais
ben
dire.
c'est difficile sur plein de points. Puis quand on commence comme infirmière, c'est encore plus difficile parce qu'on gère tout un paquet d'émotions. Du bon, du moins bon, du difficile, du je sais pas quoi faire avec ça, j'ai pas fait la bonne chose, j'ai fait une erreur. Donc ça, c'est toutes ces émotions-là. Fait, tu sais, tu viens de faire une erreur grave qui a des conséquences avec au patient. Il n'en meurt pas, mais il y a une bonne conséquence. Comment tu te sens? C'est tes émotions qu'il faut que tu ailles chercher. Fait que là, as-tu besoin en plus de piler sa tête que je suis pas bonne, je suis pas ci, je suis pas ça, parce que ça, c'est facile de partir de cette cassette-là. Donc, il faut dire, wow, une minute, là, oui, j'ai fait une erreur, OK. On va en pleurer un coup, on va s'excuser, on va être tout mal, mais il faut que tu continues ton quart de travail aussi. Donc, ce côté-là, fait qu'il y a plein. Les émotions, ils nous suivent en arrivant le matin, puis ça se finit quand on se couche le soir. Il y en a tout le temps. Donc, il faut, je pense, être capable de se trouver des trucs. T'as-tu des trucs pour justement évacuer ça, ce trop-plein-là, au lieu des fois de faire payer ta collègue ou faire payer ta fille ou ton mari ou ton conjoint?
Mais tu l'as dit un peu, mais il faut se permettre. Il faut, on peut pleurer un coup. Je pense que c'est correct de se permettre de vivre cette émotion-là au moment opportun. Donc, par exemple, si je suis dans la chambre, c'est peut-être pas le meilleur moment de me laisser envahir par l'émotion. Je peux vivre l'émotion, mais l'envahissement, par exemple, au niveau avec mon patient, sera pas optimal. Mais une fois que je suis sortie de la chambre, là, si j'ai quelques minutes, je peux faire signe à ma collègue, là, dire là, j'ai besoin de te parler de quoi, là, c'est tough. Puis moi, le meilleur milieu où est-ce que j'ai travaillé, c'est quand je sortais d'une chambre, ma collègue, j'avais même pas besoin de parler, puis elle me regarde dans les yeux, puis elle fait « Oh, OK. » Elle serre la main, elle dit « T'es-tu correct? » Bon, peut-être que je suis correct, puis c'est juste ça que j'avais besoin, parfait, mais sinon, on va prendre un 5 minutes, on débriefe ensemble, puis juste d'enligner nos flûtes ensemble, puis qu'on ait le temps, là, que j'ai le temps de sortir. Parce que des fois, c'est juste ça qu'on a besoin, l'émotion, c'est qu'elle sorte. Fait que une étudiante sorte de la chambre me dise là, Karine, je suis triste. Je fais OK, go! Pleure un bon coup, là. T'sais, on n'est plus dans la chambre, tu as du temps. Tu peux aussi aller aux toilettes, prendre une pause pour toi. Puis si c'est le temps qui manque parce qu'on est dans une situation d'urgence, on n'a jamais on manque jamais de temps, t'sais, finalement. Tu as juste besoin de 2, 3 secondes pour te recentrer. Fait que tu arrêtes, tu prends 2, 3 respires, là. Puis après ça, tu fonces. Même dans une situation d'urgence, je pense que c'est facile, pas facile, pas ça que je veux dire. C'est possible de se recentrer, puis de prendre quelques secondes pour faire comme, OK, là, je sais que c'est tough présentement. Prends 2 respires, on écoute, on ressent qu'est-ce qui se passe, puis après ça, on fonce dans la prochaine étape, tu sais.
Ça. Puis d'être là, on parle de nous avec nos émotions aussi, mais voir nos collègues. Tu sais, on le voit des fois, là. Oh, puis il rentre, là, puis ça n'a pas bien été pour moi cette nuit, ou il s'est passé quelque chose à la maison, ou des fois, ils vont ressortir de la chambre, ils sont blancs, ou ils sont rouges de colère. Donc, d'aller les voir aussi, parce qu'eux aussi ont besoin de faire sortir le trop-plein. Fait que juste de dire, ça va-tu? T'as-tu besoin? Veux-tu qu'on aille en parler? Veux-tu m'en parler? Puis des fois, ils vont, parce qu'ils ne sont pas capables, c'est bloqué, c'est non, pas de suite. Et il faut le respecter. Et, mais d'être à l'écoute. Donc, on va peut-être la surveiller peut-être un peu plus. Puis peut-être 1 demi-heure, 3 quarts d'heure après, quand c'est un peu plus calme. Tu veux-tu qu'on aille parler de ce qui s'est passé? T'as-tu besoin d'en jaser? Des fois, ils n'en auront pas besoin. Mais s'ils ont besoin, ben, tu vas au moins avoir ouvert la porte pour qu'elle puisse évacuer le trop-plein.
Ça, c'est une culture d'équipe, t'sais. C'est quelque chose qui s'installe avec le temps, en ayant des gens bienveillants autour, qui montrent de la bienveillance envers une autre personne, que l'autre va avoir le goût d'être bienveillant aussi, puis que cet échange-là va se créer. Fait que, bien que je consente que pas tous les milieux sont aussi ouverts sur leurs émotions comme qu'on souhaite aujourd'hui, là, ben, on peut être la personne qui demande en premier comment ça va, puis de pas faire semblant qu'on n'a pas vu le mal-être de l'autre, finalement. Des fois, on reste en surface, puis, tu sais,
Ouais, des
on...
fois, c'est on se met des œillères
C'est
parce
ça.
qu'on n'a pas le temps. Parce que là, on a l'ouvrage, on a ci, on a ça. Puis, ah, oh, ben elle, à chaque fois, il faut toujours, tu sais, il faut toujours prendre 2, 3 minutes pour l'aider, puis pour la rassurer, puis tout ça. Ben oui, elle en a besoin. Parce que peut-être qu'elle a sa confiance en elle est peut-être pas suffisante parce qu'elle commence. Puis ça fait 12 000 fois qu'on lui dit qu'elle n'est pas bonne, puis qu'elle n'est pas ci. Puis là, le patient vient dire quelque chose, puis que là, c'est comme le trop-plein. Là, ça vient de craquer et c'est difficile. On le sait, lorsqu'on commence, c'est difficile. Les stages sont difficiles. Les premières semaines, même la première année, lorsqu'on est infirmière, c'est difficile. Fait que déjà, juste le travail, puis après ça, on vient rajouter les émotions du patient, des situations qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, c'est comme presto, hein, ça va sortir. Il faut que ça sorte parce que sinon, ça va exploser.
C'est ça, plus on le sort par petits coups, plus on ne se rend pas à l'explosion de la carapace au travers de l'air, là, t'sais. Fait qu'il faut justement normaliser la chose, verbaliser nos émotions quand c'est le temps, pour éviter que j'accumule tout dans mon gros sac à dos, dans ma carapace ou tous les autres exemples qu'on a donnés plus tantôt, puis que ça éclate. Si on veut normaliser un peu ces émotions-là, tu sais, est-ce que tu es à l'aise de nous dire qu'est-ce qui résonne pour toi un petit peu plus dans les soins ou qu'est-ce que tu trouves? Justement pour montrer que même avec l'expérience, finalement, on a probablement des choses qui nous touchent encore. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager qu'est-ce que toi te rend plus émotive dans les soins?
Ce qui me rend le plus émotif, c'est toutes les problématiques avec les enfants. Okay? Donc, dès qu'il va y avoir quelque chose, un enfant maltraité, ça vient me chercher parce que j'ai eu déjà des expériences. Puis on dirait que parce que je suis mère, puis pourtant je suis quelqu'un qui est capable de fermer ses émotions rapidement, puis d'être fonctionnel, mais dès qu'il y a des enfants dans une situation où j'ai beaucoup de difficultés. Ça vient me chercher, je viens larme à l'œil facilement, le poil ses bras rapidement, et il faut que je me parle pour dire, bon, OK, présentement, je suis en maudit, je suis en maudit de la situation, okay? Mais la situation ne m'appartient pas. Les sentiments m'appartiennent, mais la situation ne m'appartient pas. Donc, il faut que je dise, OK, je mets mon chapeau d'infirmière, puis de professionnelle, et là, je vais faire la situation. Mais je le sais que je suis vulnérable à ça. Donc, il faut faire attention. Il y en a d'autres que ça va être sur d'autres situations. Moi, c'est vraiment cette problématique-là. Tout ce qui est injustice. Donc, ça fait partie de mon moi intérieur depuis des années. Moi, j'aime la justice dans la vie. Donc, quand il arrive quelque chose une situation avec un patient qui est la conséquence d'une injustice et que ça crée des problématiques, je sais pas, moi, un patient qui vient d'avoir un diagnostic de cancer, mais qui n'avait pas de médecin de famille, puis que ça fait 4 ans qu'il essaye d'avoir des examens de laboratoire parce qu'il sait que ça ne va pas. Puis là, au bout de 4 ans, il se fait hospitaliser, puis il se fait dire, j'ai un cancer en phase terminale. Ça vient me chercher. Ça m'enrage parce que, et ça vient, parce que je me dis, on aurait peut-être sauvé sa vie. Okay? Donc, pour moi, ça, c'est des injustices. Et ça vient me chercher. Pourquoi ça vient me chercher? Pourtant, j'ai pas eu de problématique avec les soins de santé, tout ça, mais parce que c'est
C'est
injuste.
une valeur importante pour toi, finalement. Puis déjà de connaître que pour toi, cette situation-là, ça te choque un petit peu plus, ben déjà rentrant dans la chambre, tu peux être conscient que ça, tu risques d'être plus à fleur de peau, puis ça, puis t'ajuster en conséquence durant ton soin.
Oui, puis surtout de ne pas faire alliance avec mon patient.
Ah
Parce
oui,
que
j'avoue.
c'est pas ma situation, c'est la sienne. Oui, c'est enrageant, mais je peux pas me permettre comme infirmière de dire, vous avez donc bien raison, puis vous auriez dû avoir un médecin de famille, puis embarquer dans ça. Je le pense, mais je
Mais c'est
peux
pas
pas le
moral.
dire. Mais c'est parce que ça m'appartient pas. Ça appartient au patient. Donc oui, c'est frustrant, c'est choquant, ça vient me chercher. Mais il faut quand même que je reste professionnelle. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut, plus on se connaît, bien, c'est sûr qu'en vieillissant, on se connaît davantage, mais d'aller chercher ces éléments-là. Okay? Donc, puis on doit toujours rester professionnel. Les médecins sont pas tous compétents, mais on n'a pas le droit non plus de le dire à nos patients. Le médecin que vous avez, ben peut-être que si vous aviez un autre médecin, vous auriez peut-être eu d'autres examens ou d'autres traitements. Ça aussi, ça vient nous chercher comme professionnels. Donc, fait que c'est pas nécessairement le patient, c'est l'entourage. Donc, ça vient nous chercher. Pourquoi ça vient nous chercher? Là, il faut aller creuser. Puis, quand on en est conscient de choses qu'on ressent, on va y faire plus attention. Toi, est-ce que tu as eu des choses qui viennent te chercher davantage?
Ben, c'est sûr, vous savez que je travaille en milieu de soins palliatifs. Bon, c'est sûr que je me fais souvent demander si c'est difficile ce milieu-là. Puis je pense que c'est un milieu quand même assez doux par l'acceptation de l'émotivité derrière le soin. Mais donc, ce n'est pas les soins palliatifs que je trouve difficiles là-dedans. Mais ce que je pense qui vient plus me chercher, c'est quand les patients sont soit seuls. Soit pas trop entouré, t'es jamais trop entouré, mais moi j'ai une
En
grande
veille.
famille, tu sais. Fait que j'ai une famille qui est proche, qui est soudée, qui s'est serrée. Je sais que je suis privilégiée de l'avoir. Fait que qu'est-ce que je trouve très difficile, c'est quand j'ai des patients seuls à l'hôpital ou à la maison de soins, là. Quand ils sont seuls puis qu'ils n'ont pas de visiteurs, pour moi, je trouve ça, tu sais, mourir seul, par exemple, ça m'attriste énormément. Alors que pour certains patients, c'est vraiment correct. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'ébranle parce que je me disais, mon Dieu, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je veux parce que j'ai tout mon réseau puis je sais que je suis chanceuse de l'avoir. Mais ça, je trouve ça difficile. Ça m'ébranle des fois de voir cette solitude-là puis l'anxiété qui embarque là-dedans. Des fois, tu sais, tu peux pas créer le réseau autour du patient, là, il est juste pas là. Ça, c'est quelque chose qui m'ébranle beaucoup. Mais j'ai quand même accepté, puis ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai cheminé avec le temps, c'est mon impuissance devant la situation des patients. Puis c'est un peu ce que tu disais, tu sais, cette situation-là nous appartient pas. Les gens, bon, si par exemple on est dans un palliatif avec du cancer ou même la solitude du patient, j'ai pas vraiment de pouvoir sur sa situation de vie, sur son parcours qu'il a fait, qu'aujourd'hui il est devant moi, puis qu'il n'y a pas de réseau, par exemple, puis, ou qu'il a un cancer, puis qu'il n'y aura pas de traitement. C'est pas moi qui gère toute la science du monde entier, puis qu'il n'y a pas de traitement encore pour ce cancer-là. Fait que d'accepter son impuissance devant ces situations-là, puis de se dire qu'après ça, nous, on fait notre maximum devant cette situation-là. On fait des soins complets, on s'assure que les soins sont proches de nos valeurs, donc que justement, que dans tes soins, la justice, par exemple, est là, ou que l'humain, puis que moi, je suis présente dans la chambre. Donc, quand je finis mon quart de travail, je suis en cohérence avec mes valeurs. Pour moi, c'est la façon de réparer un peu ce sentiment d'impuissance-là, puis j'ai cheminé là-dedans. Je peux pas dire que c'est quelque chose que j'avais beaucoup en début de pratique, là. Tu sens vraiment l'injustice, puis justement, tu te sens impuissante. Là, plutôt que de me sentir impuissante, j'accepte cette impuissance-là. Puis ça, je pense que c'est un discours, puis intérieur. Des fois, il faut juste moduler notre phrase, puis la modifier, là. T'sais, on dit une phrase, puis là, on se rend compte que finalement, j'ai pas vraiment le pouvoir là-dessus, mais fais juste la modifier avec des mots positifs, puis dans lesquels tu te sens mieux, là.
Effectivement. Puis oui, on est impuissant dans des situations, mais on a quand même un rôle à jouer. Okay? Dans, peut-être juste dans l'écoute ou de,
Ah oui.
puis tu sais, de donner encore pas des meilleurs soins, parce qu'on donne toujours les meilleurs soins, mais d'être encore plus attentif, puis de voir aussi l'émotion ou la colère de nos patients. Donc, cette colère-là n'est pas toujours dirigée, elle est dirigée vers nous, mais elle ne nous appartient pas non plus. C'est pour ça qu'il faut être capable de mettre cet élément-là ou ce paravent-là de dire, oh, OK, le patient, il est triste, il est choqué, il est en colère. Oui, mais c'est moi qui reçois, mais c'est moi comme infirmière et non pas comme personne. Okay?
Oui.
Puis, cette colère-là, je pense que les patients, quand ils le font, c'est que c'est une soupape, donc ils veulent évacuer. Et des fois, de façon inconsciente, va vraiment venir t'attaquer dans ton plus profond. Ils viennent vraiment chercher quelque chose. Donc, si il y a quelque chose, ben toi, t'es brune avec les cheveux longs, puis ça, j'ai dit ça, tu sais, ben, il va venir essayer de venir t'attaquer sur une caractéristique ou sur quelque chose pour que tu puisses peut-être répondre et là lui donner la justification de dire là maintenant je vais déballer mon sac. Donc c'est une façon, c'est dans les communications où on le voit souvent. Donc il faut faire toujours attention de ce côté-là, de dire la détresse de mon patient me crée des émotions, mais je ne dois pas lui redonner parce que sinon là on va tomber dans une escalade.
Ça, le temps d'arrêt est vraiment payant à ce moment-ci. C'est justement de faire comme, OK, là, je vais compter dans ma tête là, 4 secondes au moins, ou peu importe, 10 si tu veux, mais juste de faire un stop. De prendre un respire, de te repositionner par rapport à ça, de dire, OK, là, c'est mon émotion, c'est pas celle du patient, donc avant de réagir, il faut que je me module, tu sais. C'est tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, finalement.
Exact.
Dit d'une autre façon.
Ou d'autres fois, ce qu'on peut simplement faire, c'est de faire comme si on ne l'avait pas entendu, ce commentaire-là. Hein? Donc, on continue nos soins comme si de rien n'était, ou on fait ce qu'on a à faire, puis quand on sortira, on viendra retravailler sur nos émotions. C'est sûr que, puis des fois, on va se rendre compte que ce n'était pas dirigé contre nous. C'est très rarement dirigé contre nous. C'est dirigé contre ce que tu représentes dans l'hôpital.
Ouais, c'est ça.
Donc, de dire oui, regarde, il n'est pas content, il n'aime pas tel type de personnalité, il n'aime pas les hommes, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas les rousses ou les blondes. Bon, c'est correct, mais ça ne m'appartient pas. Là encore, de dire ça appartient au patient. T'sais? Puis de ne pas en vouloir au patient. Fait que, tu sais, les émotions, là, c'est. On peut avoir plein de. Ben, on en a plein de sources d'émotions. Donc, ça peut être des bonnes, des mauvaises. Ça peut être juste à cause de nous pour une situation. Ça peut être parce que c'est le patient qui nous reflète ses émotions à lui. Donc, il faut apprendre à se connaître là-dedans, à se respecter aussi. Comme jeune infirmière, on a tendance à vouloir tout faire, puis toujours bien faire, puis de tout prendre, puis à un moment donné, ben ça fait comme un presto, hein? Fait qu'on encaisse, on encaisse, on encaisse. Mais on a aussi le droit de se faire respecter. Donc,
Oui.
fait qu'avec des patients ou même avec des collègues qui viennent nous blesser, ben c'est aussi humain de dire ça me blesse ce que tu viens de dire. Donc, je pense que tu ne me connais pas assez, ou peu importe. Donc, tu sais, on va aller
Oui.
essayer de déconstruire ça, mais aussi de le nommer. Puis des fois, on a peur de le nommer. Okay? Puis des fois, c'est des fois juste des jokes mal placés ou un petit commentaire que je n'ai même pas pensé que ça pouvait atteindre et ça vient me chercher. Il okay? faut être en mesure de le dire. Puis des fois, ce n'est pas sur le coup parce qu'on ne sait pas trop. Puis un petit peu plus tard, de dire, hey Karine, tu sais, là, quand tu m'as dit telle affaire, là, c'est venu me chercher. Parce que j'ai vécu telle affaire. Tu sais, on peut le dire ou juste dire, t'es venu me chercher, j'aime pas ça, j'aimerais mieux que tu parles pas de ça.
Oui. C'est pas facile de s'affirmer, tu sais, dans un milieu quand on commence, puis on parle beaucoup de nommer nos émotions, puis d'en parler à nos collègues, mais ça se peut très bien que notre jeune infirmière ou quelqu'un qui commence dans une nouvelle équipe se sente moins outillée, ou aussi dans le fond que elle se sente pas prête à partager ses émotions-là. Je pense que c'est correct aussi que tu choisisses de pas nommer les choses ou de vivre cette émotion-là juste toi. Soit chez toi ou aller prendre 3 minutes dans la toilette là, puis pleurer, puis ressortir, puis t'es correct. Ou même de ne pas le dire à ta collègue que t'es pas d'accord avec certaines choses. Je pense que c'est correct de pas tout le temps nommer les choses puis de laisser glisser des fois. Si c'est ça ton besoin, c'est correct aussi de pas nommer les choses tout le temps, je pense.
Oui, mais de ne jamais les nommer non plus.
Ouais, c'est
Donc, il faut
ça.
faire une balance entre les deux de oui, tu sais, il y a des choses que je vais laisser passer. C'est une fois, c'est deux fois, c'est correct. Quand ça devient répétitif, à un moment donné, faut aussi arrêter parce que cette émotion-là, à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose et que ça vient te chercher, à chaque fois que c'est redit et redit, ça vient amplifier.
Oui.
Donc, à un moment donné, c'est là où des fois, ça éclate. Moi, j'en ai vécu des situations comme ça, pas personnellement, mais j'en ai vu. Tu sais, une infirmière qui parle pas trop, puis que, ah, il y a toujours des petits commentaires, un petit ci, un petit ça, puis elle dit jamais rien, toujours le sourire, puis à un moment donné, du jour au lendemain, paf, tout sort.
C'est comme mes deux gars, finalement, tu sais, quand ils chicanent. Il y en a un qui dit, parle jamais vraiment beaucoup, puis l'autre qui le gosse, 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 puis finalement, c'est lui qui éclate, puis qui se fait chicaner par la suite parce que il a éclaté devant son frère, puis il a donné un coup, peu importe, là, tu sais, c'est des enfants, mais et après ça, c'est lui que je vais rencontrer dans mon bureau, puis dire, voyons, c'est quoi cet éclat-là, finalement, tu sais, si
Exact.
j'étais infirmière-chef, des fois, ces comportements-là d'éclatement peuvent être moins bien perçus. Là.
Oui,
Ouais.
puis des fois, c'est l'accumulation. Puis si on aurait pu voir arriver ça, ou des fois, on les voit en externe, on est à l'extérieur, on les voit arriver, puis on ne veut pas trop les voir. Tu fais qu'on s'en va, puis on s'en occupe pas trop. Tout dépendant de la relation que tu vas avoir, mais tu peux aussi être plus à l'affût. Sans être dit, moi, je ne veux pas m'impliquer, mais je vois que c'est difficile au niveau des émotions pour elle. Ben, justement, il y a une supérieure, puis peut-être d'aller en discuter avec la supérieure, de dire, moi, je vois cette situation-là, je ne suis pas trop à l'aise pour intervenir là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Okay? Donc, peut-être qu'en ayant des petits signaux d'alarme comme ça, il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Parce que de toujours encaisser avec nos émotions, de toujours ravaler ce qui se passe, ça va pas bien avec les collègues ou les collègues ont toujours un petit commentaire ou un petit quelque chose ou ils t'aident pas, ou, tu sais, t'es un petit peu le mouton noir de ton département. Après ça, tu t'en vas voir les patients ne sont pas nécessairement toujours fins avec toi. Il se passe une situation qui te rappelle une situation qui n'a pas bien été dans ta famille, puis c'est comme, ouf, le coup de poing en face qui vient, là, à un moment donné, c'est trop. C'est beaucoup trop d'émotions. Puis on le sait que la santé mentale, c'est tellement fragile. Ça peut basculer comme ça. T'sais? On a une bonne santé mentale, puis à un moment donné, il va arriver quelque chose, puis tout va basculer. Donc, il faut préserver ça. Je pense qu'il faut se préserver entre équipes, entre amis, entre collègues, puis après ça, nous-mêmes aussi, pour justement préserver cette santé mentale-là.
Bien, tu sais, on télépathe, toi puis moi, Sylvie, parce que je me suis dit, je pense qu'il faut absolument qu'on parle des signaux d'alerte, dans le fond, ou de quand est-ce que justement, là, c'est trop. puis que ma santé mentale est affectée, à quel moment? Parce qu'on a dit que c'est normal de vivre des émotions. Fait que là, ça, c'est pas quand je pleure une fois durant mon corps de travail que c'est alarmant, puis que je me dis je devrais pas être infirmière ou que je suis trop sensible pour faire ça. C'est pas ça, mais à quel moment on devient soucieux de notre santé mentale ou de la santé mentale d'un collègue? Parce qu'on sait qu'on vit des choses difficiles en tant qu'infirmière. On a nommé plein de situations qu'on pouvait vivre comme difficiles, comme infirmière, comme collègue de travail aussi, tout ça. À quel moment, là, je me dis, là, il faut que je dise à ma collègue que ça ne va pas, il faut qu'elle aille consulter ou que moi, j'aille consulter?
Ben, des signaux d'alarme de ben, je mange plus ou je mange moins, ben, je pleure tout le temps, pas de raison. Je suis en train de pas en train d'écouter un film d'amour puis tu pars à pleurer, ça vient avec l'âge. Mais non, tu sais, de partir à pleurer, d'être toujours à fleur de peau, de pas bien dormir. Donc, je pense que le fait de pas bien dormir, d'avoir des idées noires,
Ouais, ça aide aussi.
donc, tu sais, puis les idées noires, c'est dire, c'est pas de dire je vais aller me jeter en bas du pont, là, mais ça vient bien avant ça. De pas, ah, je suis plus bonne, puis là, de se taper sur la tête, puis je suis pas bonne, j'aurais pas dû être infirmière, je suis pas ci, je suis pas ça.
Un discours intérieur
Vraiment,
sombre,
son
ouais.
négatif, puis plus, c'est comme une roue qui tourne, fait que plus on est négatif, plus on amplifie le problème, plus on va encore plus dire qu'on n'est pas bonne, on n'est pas ci, on n'est pas ça.
Oui.
Donc, ça, c'est difficile, et c'est des signaux d'alarme. Il y a plusieurs situations, il y a plusieurs ressources qui existent. T'sais, il y a des ressources sur Internet, il y a des lignes téléphoniques, il y a le centre d'aide aux employés, il y a plein de choses. Des fois, juste d'aller te faire rassurer. Et avant que ça soit trop noir, puis que tu te lèves un matin, puis tu dis là, maintenant, parfait, j'ai mon plan, je vais faire ça là, tel moment, avec telle affaire, c'est notre coque, là. Bien, avant d'arriver là, bien, on va se poser des questions, puis on va essayer de. Juste de me faire soit rassurer, de dire c'est correct les émotions qu'on vit ou non, tu es rendu trop loin. Là, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un aide psychologique pour essayer de justement de redevenir fonctionnel puis de ne pas toujours avoir ces idées noires-là.
Oui, ou de l'anxiété qui devient envahissante. Tu sais, c'est normal, la petite anxiété avant le chiffre de travail. Des fois, on a des petites boules dans l'estomac parce qu'on ne sait pas trop, surtout quand on commence, là, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver durant notre corps de travail, est-ce qu'on va être assez outillé ou pas. Mais quand ça devient tu sais, tellement challengeant que j'ai de la misère à rentrer le matin, tellement que je suis anxieuse devant qu'est-ce qui s'en vient, que je me sens pas bien, je me sens oppressée au travail aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui se sentent lourd au niveau de la poitrine. Bien, ça, c'est inquiétant, là, parce qu'on devrait bien se sentir de façon générale quand on travaille à l'hôpital. Même si c'est dur, qu'est-ce qu'on fait? On devrait être capable d'être en équilibre. Puis si je suis tout le temps en déséquilibre, puis je suis tout le temps dans le négatif, bien, là, ça devient inquiétant.
Et on passe
Oui.
le tiers de notre temps au travail. Donc,
Ah, mon Dieu, oui, c'est
ben
vrai.
oui, donc c'est important donc d'avoir une bonne santé au travail. Puis la santé mentale fait partie de ça. Donc, dès qu'on voit qu'on n'est pas bien, et on a une situation à la maison avec un conjoint, des enfants, tout ça, quand ça ne va pas bien, on le voit que si ça vient tout désorganiser. Au travail, c'est la même chose. Et puis même avec nos étudiants. Donc, tu sais, là, on parle beaucoup avec les CPI, mais tu sais, comme prof, là, on doit voir aussi ces signaux d'alarme-là chez nos étudiants. Puis de dire à nos étudiants d'en prendre un à part, on voit que ça ne va pas, là. Donc, veux-tu en parler? Ou peut-être que tu ne veux pas m'en parler à moi parce que moi, je suis ta prof. Mais as-tu un soutien? Qu'est-ce que tu as autour comme réseau? Tu sais, juste de s'assurer qu'il y a un réseau autour. Des fois, ils n'en ont pas, ils sont démunis, ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne autour, ils n'ont pas d'amis. Ceux-là, il faut peut-être regarder le filet de sécurité, puis peut-être de trouver quelqu'un qui va l'accompagner, qui va l'aider.
Oui, il y a des ressources au cégep pour les étudiants aussi, là. Donc, de ne pas rester seul, peut-être, avec ces sentiments-là, puis cette lourdeur-là qui est une boule de neige. Plus ça va aller, plus elle va être grosse et lourde. Dans le milieu, là, on a parlé des ressources officielles, mais je pense que nos stagiaires comme nos CPI, il va toujours avoir quelqu'un vers qui il se retourne un petit peu plus. T'sais, le mentor, quelqu'un sur le département avec qui ça a cliqué dès le début, puis tu sens que tu as quelque chose, là, n'hésite pas à aller voir ces personnes-là, puis à dire que toi, tu trouves ça difficile présentement, puis à demander de l'aide. parce que c'est pas normal de sentir lourd comme ça.
Non.
On devrait se sentir généralement bien quand on rentre travailler. Puis sur les réseaux sociaux, tu sais, on voit souvent justement des infirmières fatiguées, les cernes jusqu'ici. Tu sais, c'est de l'humoristique, mais ça reste que c'est inquiétant. Ça devrait pas être juste ça, notre profession, tu sais, être fatigué puis être trouver ça lourd, trouver ça difficile. Je pense qu'on fait des super belles choses. Puis si on n'est plus capable de voir les belles choses qu'on fait comme infirmière, bien là, il faut demander de l'aide. Vraiment. Fait que nos mentors sur place, notre infirmière-chef, notre assistante,
Oui.
ça, c'est des beaux piliers vers qui on peut se retrouver. La conseillère en soins,
La
par
conseillère en
exemple.
soins. Mais ça peut être le préposé ou
Oui,
la
absolument.
préposée de ta section avec qui tu as des affinités. T'en parles avec elle, même si c'est une préposée. Elle fait partie de ton équipe. C'est pas obligé d'être une infirmière. Hein.
Oui, la madame de la cafétéria a besoin.
La,
Peu
la,
importe
ah,
qui,
ça peut
un
être
pilier.
quelqu'un qui passe la mop, peu importe.
Oui.
Quelqu'un qui est dans le même, qui travaille avec toi. Puis si tu n'en as pas de ressources, ben, le syndicat est là pour essayer de t'amener.
C'est
Peut-être,
vrai.
tu peux aller voir le syndicat, de dire c'est quoi les ressources que j'ai. Ça va pas, c'est si, c'est ça, j'aurais besoin de parler. Il y a des programmes d'aide aux employés, ils sont là dans tous les établissements. Donc, il faut aller chercher
C'est
cette
pas beaucoup
aide-là.
utilisé le programme d'aide aux employés, j'ai l'impression. Puis des fois, on dit, ah oui, mais je veux juste avoir un ou deux rendez-vous gratuits parce que tu sais, il
Oui.
y a un certain nombre maximum. Je pense que c'est plus qu'un ou deux, mais j'ai déjà entendu, oui, mais ça sera pas assez parce que j'ai besoin de plus de rendez-vous. Mais des fois, on a juste besoin de un, deux, trois rendez-vous juste pour se réaligner un peu, pour prendre le recul avec quelqu'un qui est outillé pour nous aider à faire ça. Puis si jamais c'est plus de rendez-vous que j'ai besoin, bien OK, on ira le chercher ailleurs. Mais en attendant, tu as accès à ce service-là assez rapidement de façon gratuite.
Oui, et
Fait
c'est, il
que
faut penser que c'est externe.
ouais.
Donc, ce n'est pas l'établissement comme tel. C'est des firmes externes qui font ça et c'est confidentiel. Donc, ta chef de service ne le saura pas, tes collègues ne le sauront pas. Okay? Donc, avant que, tu sais, là, que la marmite là, de ton presto commence à être plein là, puis que tu as besoin, bien, avant que tout explose, prends rendez-vous une fois, deux fois, puis ça va peut-être se régler. Elle va te donner des outils. Donc, c'est toujours difficile quand on est rendu au bout de revenir. Mais si on a juste un petit bout de fil, bien, on va revenir rapidement. Puis, vous allez retomber avec une structure. Vous allez prendre confiance en vous. Elle va vous donner des exercices, des choses à faire. Puis aussi, ce qu'on disait au début, normaliser.
Ouais.
Que c'est normal d'avoir des émotions, puis qu'est-ce que je fais à cette heure que je les ai? Donc, c'est des problèmes. On va se faire aider. On se fait aider parce qu'on a un problème de santé, c'est des infirmières, c'est des médecins qui nous aident. Bien, quand on a un problème de santé mentale ne veut pas dire qu'on a une problématique de psychiatrie. C'est quelque chose, c'est en lien avec les émotions, c'est en lien avec nos ressentis. Il faut en parler. Donc, il faut apprendre à en parler. Puis, si on n'est pas capable, ben on va s'aider justement de professionnels qui vont nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce que des fois, on n'a même pas de mots.
Oui, puis
On a
on ne sait
juste
même pas
pogné avec la
pourquoi, puis
boule qui est là. Puis, tu sais, là, je sens une tension, je me sens tout pogné. Pourquoi je suis mal, je ne sais pas. Hein? Mais ces professionnels-là sont là justement pour poser des questions, pour amener jusqu'à qu'est-ce qui t'amène comme ça? Qu'est-ce qui te trouble à ce point-là?
ça m'avait frappé, moi. J'ai invité des anciennes étudiantes récemment à venir au cégep, puis tout ça. Je parle de vous, oui, les filles. Elles sont venues là, présenter avec mes étudiantes actuelles, peu importe, des nouvelles CP, nouvelles graduées. Puis ça m'avait frappé comment ils vivaient toutes les mêmes choses dans leur intégration à la profession, les mêmes défis, justement, les mêmes difficultés au niveau des fois des émotions qu'on vit, la lourdeur du travail, s'organiser, le stress, l'anxiété avant de commencer de travailler. Leur corps de travail, par exemple. Ils m'avaient tous partagé ça de façon séparée, peut-être un peu, mais quand je les ai mis tout ensemble, ils m'ont dit, mais là, tu aurais dû me le dire. Je ne savais pas que tu vivais la même chose. Puis là, c'était comme si on réalisait que tout le monde vivait la même chose. On a gradué en même temps, on vit les mêmes affaires, mais on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas dit qu'on vivait des difficultés. Puis même, une fois avec mes étudiants en stage à l'international, tu sais, on va rayonner, on va dire qu'on vit des belles choses, mais c'est tough aussi ces stages-là. Puis on vit des émotions fortes, on les vit toutes séparées. Puis là, s'il n'y a pas personne qui nous met ensemble pour s'en discuter, mais on va vivre nos difficultés séparément. Alors que juste le fait de voir que je suis pas toute seule de vivre ces difficultés-là, puis ces défis-là, juste ça va m'aider à me sentir bien. Parce qu'on se sent pas normal. On se sent
Exact.
faible, on se sent vulnérable, on se sent fragilisé. Puis des fois aussi dans le discours à l'hôpital, tu sais, on peut entendre ça, là. Ah, t'es trop émotionnée, là, pour travailler en tel département. Fait qu'on se sent pas assez forte. Mais dans le fond, c'est on vit la même chose que tout le monde vit probablement. Puis juste en parler à quelqu'un de confiance, ça peut nous faire sentir mieux.
Ouais.
Ça m'avait vraiment impressionné comment qu'on. Puis c'est la même chose au travail, peu importe. On vit nos choses séparées, mais quand on prend le temps de partager ce qu'on vit, on fait, mais je suis pas toute seule. Moi, là-dedans, finalement, il y a plein d'autres mondes qui vivent la même chose que moi.
Exact. Bien, les cellules de crise sont faites comme ça. Quand il arrive un gros événement majeur, tout de suite, il va y avoir quelqu'un qui va dire si vous avez besoin d'en parler. Puis, pour que ça, oui, ça peut venir te toucher, tes émotions. Et ils disent venez en parler parce que c'est important.
Oui.
Donc, d'avoir ces cellules-là, donc oui, justement, des réseaux d'amis, les filles avec qui tu as été en stage, tu sais, d'essayer ton réseau professionnel, mettons qu'on pourrait dire, ben, de voir est-ce que d'en appeler une, dire, moi, là, je vis ça dans mon milieu, toi, ça t'arrive-tu? Qu'est-ce que tu as? Ah non, moi, ça va bien. C'est quoi tes trucs? Comment ça fonctionne? Tu sais, d'aller aussi chercher pas cette expertise-là, mais de voir qu'ailleurs, des fois c'est pareil, des fois c'est différent aussi.
Des fois, on a l'impression aussi que ça va super bien pour l'autre, puis dans le fond, c'est une façade, ça paraît pas, et on voit pas les intérêts. Si on s'en va en stage, là, par exemple, un peu, on a l'impression qu'on est la seule qui roche dans le groupe de stage, qu'on est la seule à avoir des besoins différents au niveau de l'apprentissage, puis que c'est plus long, puis qu'on fait pas des liens cliniques faciles, puis tout ça. Souvent, ça ne sera pas les mêmes défis. Puis des fois, c'est la comparaison aussi qui fait mal. Il faut éviter de se comparer avec nos collègues, que ce soit au travail comme stagiaire, là. Dire, oh, elle a vécu la même situation que moi, puis elle est sortie de la chambre, puis elle n'était pas ébranlée. Mais on est deux personnes différentes. On n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes choses qui résonnent, finalement. Ça
Exact.
ne veut pas dire que ça va résonner pour ta collègue, mais pour toi que ça résonne, c'est correct, c'est valable. Une émotion, c'est valable. C'est comment qu'elle s'exprime des fois qu'il faut moduler. Mais
Oui.
l'émotion est toujours valable, finalement.
L'émotion, ben, l'émotion, elle est là, de toute façon, qu'elle soit,
Oui.
elle va être là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais avec? Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à grandir, qu'on apprend à mieux se connaître aussi de la gestion d'émotions. On le voit avec nos ados. La gestion d'émotions, des fois, c'est difficile. Ben, les jeunes infirmières, ils ont l'adolescence, c'est pas si loin, là. Donc, il faut aussi qu'ils aient encore à apprendre au niveau de leur gestion d'émotions. Puis des fois, de lâcher prise sur certaines situations qui viennent nous chercher,
Ouais.
de dire, ben, faut que j'apprenne à travailler ça. Pourquoi ça vient me chercher plus que d'autres choses? C'est ce qu'on disait au début. Okay? Donc, puis plus on apprend à se connaître, plus on ne cache pas ça en arrière du tapis pour dire non, non, je m'en occuperai plus tard. Bien, plus tu vas le cacher, ça va revenir d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Donc, puis des fois, ça ne revient pas nécessairement de la façon qu'on veut, puis au moment où on veut que ça revienne. Donc, faut y aller au jour le jour, puis de voir, c'est sûr que les émotions, dans le fond, c'est la vie, parce qu'on a le privilège d'avoir des émotions parce qu'on est en vie. Hein? Donc, mais il faut garder et préserver notre santé mentale beaucoup, surtout en début de carrière. Hein? Donc, de faire attention à nos collègues également, mais surtout de faire attention à nous, parce que, comme je dis, j'ai toujours dit à mes enfants, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Donc, il faut que tu sois bien pour donner des bons soins, il faut que tu sois bien pour avoir une belle vie avec ta famille, avec tes amis. Donc, mais il faut que tu prennes soin de toi là-dedans.
Souvent, on est très bon pour prendre soin des autres. Hein. C'est pour ça qu'on s'en va être infirmière. C'est parce qu'on a beaucoup de bienveillance, d'humanité, de chaleur humaine. Donc, on s'en va soigner les autres. Mais on est souvent beaucoup plus difficile envers nous-mêmes. On n'a pas le même discours bienveillant qu'on a envers les autres. Hein. Donc, ça, il faut être à l'affût un peu de notre discours intérieur. Puis, justement, prendre soin de nous, c'est super important. De se donner la même bienveillance qu'on donne aux autres à nous-mêmes, finalement.
Puis, si tu avais un dernier conseil à donner avant qu'on se quitte.
Ah, je pense que c'était ça.
Ah oui.
Donc, c'est la bienveillance envers nous-mêmes.
C'est
Je
vrai.
pense que c'est une belle conclusion. Je pense que justement, de se donner d'être clément envers nous, d'accepter nos émotions comme elles sont, puis de ne pas se juger plus difficilement qu'une autre personne. Tu sais, on est souvent plus difficile envers nous. Donc, d'être bienveillant, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais pour moi, il est vraiment ancré dans qu'est-ce que je fais comme prof, comme infirmière, puis comme mère de famille, amie, et tout ça. C'est partout. Et je trouve ça important qu'on l'aille autant envers nous-mêmes.
Oui.
Puis ça va avec les émotions après, tu sais.
Exact. Puis pour d'autres qui sont ont le côté plus rationnel, qui sont peut-être capables de mettre le baluchon plus sur le bord de la porte, d'être à l'écoute puis de voir les autres aussi.
Ouais.
T'sais, de voir la détresse qu'il peut avoir, petite ou grande, mais d'être capable de la voir puis d'aller aussi vers ces personnes-là, qui des fois ont personne, là. Donc de voir ça puis. Le travail est tellement difficile, t'sais, y a la charge de travail, on le voit là, de plus en plus, c'est difficile. Si on est juste bienveillant entre nous, il me semble que la tâche va être beaucoup plus simple.
Merci Sylvie pour ce beau balado-là. Je trouve que c'est un thème qui est quand même plus large puis plus incon moins concret que d'habitude, mais qui a toute son importance pour nos infirmières en début de pratique.
Oui, puis que nos émotions, on va les vivre, puis on va en vivre à tous les jours.
Aussi bien foncer dedans.
Exact.
Merci beaucoup, je suis contente de t'avoir vu aujourd'hui. C'était le fun de
Moi
faire ça en vrai.
aussi, je suis bien contente. Puis on va se revoir pour un prochain balado.
À bientôt.
Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces et d'histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière.
Rappelez-vous, que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part.
À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres.
Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser un 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci de faire grandir la communauté de
novice à experte.